Le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. En Syrie, après l'accord, la mise en œuvre hier soir, les contours concrets de la zone démilitarisée ont été définis pour la province d'Idlib. Alors que dans le nord-est du pays, c'est un nouvel appel des autorités kurdes qui est lancé, appel à rapatrier les djihadistes étrangers vers leur pays d'origine. Et ce matin, la Syrie et les crimes commis depuis 7 ans, ce sera le thème de votre invitée, Caroline Brouet.
Elle est magistrate, elle a été nommée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en juillet 2017, à la tête d'un organisme chargé de la collecte de preuves des crimes graves en Syrie. Jeudi, elle a tenu une conférence de presse pour faire un point sur l'avancée des recherches. La magistrate Catherine Marquis-Huel sera avec nous tout à l'heure.
Et dans ce journal, nous irons aussi à Bamako, alors que Jean-Yves Le Drian assistera aujourd'hui à l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Réélection contestée encore hier soir au cours d'une manifestation, on le verra avec un reportage sur place. Direction aussi à l'Italie avec Steve Bannon, l'ex-conseiller de Donald Trump, qui espère fédérer les extrêmes droites en Europe à quelques mois du prochain scrutin. Reportage à suivre avec Mathilde Imberti.
En France, la réforme de l'assurance chômage et cette objectif donné par le gouvernement aux syndicats, réaliser 3 à 4 milliards d'euros en 3 ans, analyse de Jean-Marc Chardon dans un instant.
Et puis le Modem fait sa rentrée politique depuis hier soir à Guidel dans le Morbihan, l'occasion pour François Bayrou de rappeler à Emmanuel Macron qu'il faut soigner ses amis, nous dira Adrien Toffolé. En Syrie, la zone démilitarisée a été définie concrètement hier soir pour la province d'Idlib, où vivent 3 millions de personnes après une ultime réunion entre la Russie et la Turquie, conséquence de l'accord trouvé lundi entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Toujours en Syrie, le sort des djihadistes étrangers détenus dans le nord du pays est loin d'être réglé, provoquant l'impatience des Kurdes qui les détiennent depuis la chute du groupe État islamique. La France refuse de rapatrier ses ressortissants, alors que des dizaines de Français, surtout des femmes et des enfants vivent depuis un an dans des camps où un bébé français est mort cette semaine. Les autorités kurdes haussent le ton et demandent à nouveau à leur pays d'origine de les rapatrier ainsi que leur famille, Omar Waman.
Ce n'est pas la première fois que les autorités kurdes de Syrie appellent les pays d'origine de ces djihadistes et de leurs familles à prendre leurs responsabilités. Mais le ton employé n'est plus le même. Conciliant au début, à la suite des premières arrestations de combattants de Daesh, il est devenu beaucoup plus ferme. Lors d'une conférence de presse, l'un des officiels chargés des relations extérieures a évoqué un fardeau de plus en plus lourd que les Kurdes ne peuvent plus supporter seuls. Près de 520 djihadistes originaires de 44 pays différents sont toujours détenus dans cette région, presque autant de femmes et pas moins de 1200 enfants. Mais le Kurdistan syrien dispose d'un système judiciaire rudimentaire, les droits de la défense n'y sont pas vraiment assurés. Les autorités kurdes ont de nouveau rappelé qu'elles n'étaient pas en capacité de juger ces combattants étrangers sans l'aide des pays concernés, que faute de moyens, elles ne pourront pas les garder éternellement.
Omar Waman. Catherine Marquis-Huel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes magistrate et donc chef de la structure mise en place par l'ONU pour enquêter sur les crimes commis depuis 7 ans en Syrie. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur France Culture. Première question, que savez-vous des violences commises dans la zone du nord-est de la Syrie dominée par les Kurdes ?
Alors, je ne suis pas en mesure de vous donner de détails sur les éléments spécifiques de preuves que nous recueillons. Ce que je peux dire, c'est que notre mandat nous demande de recueillir des éléments de preuves concernant tous les crimes les plus graves, quelles que soient les parties ou conflits qui ont pu y être associés. Et donc, nous collectons le plus large possible. Donc, nous avons des éléments sur actuellement un volume qui couvre 900 000 fichiers. C'est un nombre important de données, mais c'est juste le début. Nous avons commencé ces activités de collection au mois de mars à mai.
Comment juger les ressortissants étrangers, notamment français, détenus dans des camps là-bas ? Est-ce qu'il faut les rapatrier, selon vous, vous qui êtes magistrate ?
Alors, je suis magistrate à l'origine. Là, actuellement, j'ai pas un poste de magistrat en tant que chef du mécanisme, mais bon, je dirais tout d'abord que c'est pas à moi de me prononcer pour les autorités françaises sur ce qu'ils conviennent faire. Ce que je dirais en tant que ancienne magistrate, c'est que le principe qui doit guider, à mon avis, cette décision, c'est de savoir s'il est possible de proposer une justice qui respecte les droits fondamentaux sur place, et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il faut envisager des solutions qui le permettent. Les droits fondamentaux, c'est les droits au procès équitable, la possibilité d'être défendu et des conditions des centres de détention.
Merci Catherine Marquis-Huel. Je rappelle que vous êtes chef du dispositif mis en place par les Nations Unies pour récolter les preuves autour des crimes commis en Syrie. Vous étiez en direct avec nous depuis Genève. Vous restez avec nous pour la suite des matins du samedi avec Caroline Brouet, juste après ce journal.
Jean-Yves Le Drian, au Mali, déclare la Turquie a fait appel à la France pour consolider l'accord russo-turc sur la province syrienne d'Idlib au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans une interview au quotidien Le Monde aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères qui sera à Bamako aujourd'hui pour l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Dans une interview donc au Monde ce matin, il se félicitait des objectifs de sécurité affichés par le gouvernement et par le président réélu. Une réaction qui a été contestée, qui l'est toujours d'ailleurs. Comme le montrait hier une manifestation dans la capitale Bamako. Reportage sur place de Charlotte Pire.
Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Le rassemblement de l'opposition est prévu à mi-chemin entre l'aéroport et le palais présidentiel, là où passent tous les chefs d'État et ministres venus pour l'investiture. Modibo Cissé est un des responsables de la manifestation.
Pour nous, il n'y a pas encore de président, parce que jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle a beau dire le sien, nous sommes à la Cour suprême et on devrait attendre que la Cour suprême se prononce avant d'introniser qui que ce soit.
Depuis un mois, l'opposition manifeste tous les week-ends, rassemblant quelques milliers de personnes. Comme Malik Ban, il rejette la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, dénonçant des fraudes massives et revendique la victoire de leur candidat Soumaïla Cissé.
Le président, on le connaît, c'est un traître, c'est un voleur. On ne le veut pas, les Maliens n'ont pas choisi. Il l'a choisi lui-même. Les Maliens ont choisi Soumaïla Cissé.
Ce vendredi, aucune manifestation n'est possible. Les policiers dispersent tout rassemblement à coups de gaz lacrymogène et de matraques, car la marche a été interdite à cause de l'état d'urgence et de la cérémonie d'investiture. Ce que regrette Khadija Fofana, une des organisatrices.
Nous sommes dans un pays démocratique et c'est un droit constitutionnel pour nous. Si nous voulons marcher, nous le faisons. Nous avons juste le devoir d'informer les autorités pour qu'ils puissent encadrer la dite manifestation.
L'opposition souhaite organiser un autre meeting ce samedi matin, lui aussi interdit. Il est prévu en même temps que le défilé militaire de la fête de l'indépendance et de la cérémonie d'investiture.
Charlotte Pire à Bamako pour France Culture. Un compromis bon pour tous sur la sortie du Royaume-Uni est encore possible. C'est la déclaration optimiste hier soir du président du Conseil européen, Donald Tusk. Dans un communiqué, il répondait ainsi à la première ministre britannique, Theresa May, qui accusait un peu plus tôt l'Union européenne d'être à l'origine de l'impasse dans les négociations du Brexit. Sur la question irlandaise et sur les règles de la coopération économique, les propositions du Royaume-Uni doivent encore être retravaillées et de nouveau négociées, a réaffirmé Donald Tusk. Nouvelle offensive américaine sur le front diplomatique dans le bras de fer avec Pékin. Le chef de la diplomatie américaine a dénoncé cette nuit le traitement infligé à la minorité musulmane ouïghour en Chine. Washington dénonce des abus horribles. Alors que la Chine a été accusée en août devant un comité des droits de l'homme de l'ONU de détenir près d'un million de personnes dans des centres d'internement dans la province du Xinjiang. De son côté, la Chine rompt le dialogue commercial avec Washington. Selon le Wall Street Journal, Pékin annule une nouvelle série de négociations qui devaient avoir lieu à Washington. Toujours en bref, un journaliste assassiné au Mexique, Mario Gomez, a été abattu devant chez lui hier. Il travaillait pour le journal El Heraldo de Chiapas. C'est le 9e reporter tué cette année au Mexique.
France Culture 8h09, suite du journal. Steve Bannon à la conquête de l'Europe. L'ex-conseiller de Donald Trump poursuit son objectif de coaliser les forces d'extrême droite en amont des élections européennes de mai prochain.
Et pour faire la promotion de son organisation, The Movement, et espérer faire vaciller les institutions européennes, Steve Bannon fait étape aujourd'hui à Rome où il interviendra ce soir lors du rassemblement des post-fascistes de Fratelli d'Italia. Les précisions à Rome de Mathilde Lamberti.
L'Italie, selon Steve Bannon, est le point de départ de la révolte nationaliste populiste, son pays de référence. Il ne la quitte plus. Il y a 15 jours, il encaissait l'adhésion de Matteo Salvini, le patron de la Ligue. Ce samedi, c'est Giorgia Meloni, du parti Fratelli d'Italia, issu du post-fascisme, qui signera son entrée à The Movement, l'organisation conçue comme un outil au service des partis souverainistes. L'ancien conseiller de Donald Trump prétend avoir agi dès le printemps dernier en Italie, en incitant Matteo Salvini à monter un exécutif. Le parti d'extrême droite, devenu depuis le premier d'Italie, est une une pièce maîtresse de son dispositif, relève le politologue Giovanni Orsina, dans une Europe en crise.
Les Italiens, ils veulent une autre Europe. Il y a un européisme de fond, mais en même temps, il y a aussi l'idée que l'Europe, comme aujourd'hui, ne marche pas, que l'Europe a été incapable de résoudre les problèmes de migration. Et il y a la possibilité qu'ils veulent voter pour la Ligue avec l'idée que seulement avec le choc d'une fort vote pour les souverainistes, l'Europe va changer et répondre aux nouvelles demandes de l'opinion publique.
Steve Bannon intervient ce soir à Rome pour appeler à la convergence des extrêmes droites européennes en partant du cas italien.
Mathilde Imberti à Rome pour France Culture. La colère des habitants de Lisbonne et de Porto s'exprimera dans la rue aujourd'hui. Au Portugal, des manifestations contre la hausse des loyers poussées par le développement notamment d'Airbnb et l'installation aussi de populations plus aisées qui cherchent des avantages fiscaux. Cette colère s'exprimera dans la rue. Analyse à suivre dans le journal de 9h sur France Culture.
Sur le régime de l'assurance chômage, le gouvernement demande aux partenaires sociaux 3 à 4 milliards d'euros d'économies en 3 ans.
Oui, à l'issue d'une réunion au ministère du Travail hier, les organisations syndicales ont dénoncé une logique budgétaire, selon leurs mots, mais se laissent du temps avant de se prononcer pour ou contre le principe même de la négociation. Un dossier lourd de contradictions, à la limite explosif, mais incontournable. Jean-Marc Chardon.
L'assurance chômage, c'est sans doute le dossier le plus sensible, celui qui revient périodiquement dans l'actualité sociale, du même calibre que celui des retraites, mais encore plus vif du fait qu'il est au cœur de l'activité économique, qu'il est très dépendant de la croissance et qu'il joue un peu le rôle de garde-fou face à la montée de la précarité. Or, voilà que la croissance ralentit au moment où le gouvernement rouvre les perspectives de réforme. Une difficulté d'entrée de jeu qui s'ajoute à un défilé de contradictions. Le gouvernement veut faire des économies à près de 4 milliards en 3 ans, mais il doit en même temps prévoir une augmentation de la facture avec l'indemnisation des démissionnaires et des indépendants, et puis la perspective d'une allocation longue durée. Ça complique les choses. En face, il se retrouve avec des syndicats de salariés aux aguets, tellement d'ailleurs que certains voulaient parvenir à une interpellation commune des CTT, sauf que les organisations ne sont pas parvenues à définir une position unanime. Quant au patronat, s'il affiche un front commun pour dénoncer tout projet de bonus-malus sur les contrats courts, qui serait considéré comme abusif, il ne parle pas à l'unisson entre MEDEF et CPME. C'est dire que les lignes de fracture sont là et bien visibles. Pour autant, derrière l'assurance chômage, c'est l'avenir du paritarisme qui est en jeu. Les acteurs sociaux savent que vaille, ils ont intérêt finalement à s'entendre s'ils ne veulent pas se voir marginalisés devant un gouvernement qui se poserait en pilote du système.
Jean-Marc Chardon. Ce week-end, le Modem rassemble ses troupes à Guidel, dans le Morbihan. Le principal allié d'Emmanuel Macron fait sa rentrée. Et ces dernières semaines, d'ailleurs, le parti centriste s'était montré particulièrement critique vis-à-vis de la politique du gouvernement et de la gestion des crises Hulot et Benalla, sans oublier le sentiment chez de nombreux élus du Modem d'avoir été un peu mis de côté par le rouleau compresseur LREM. Et s'il semble avoir été entendu, François Bayrou profitera tout de même de ce rendez-vous à Guidel pour rappeler que dans la tempête, il est toujours bon de choyer ses amis. Adrien Toffolé.
Le président de la République l'a bien compris, il aurait bien tort d'oublier ses amis au moment où les polémiques s'enchaînent sur le plan national et à quelques mois des élections européennes. L'exécutif, ces deux dernières semaines, s'est donc attelé à envoyer des signaux rassurants en direction du Modem. Christophe Castaner d'abord, il y a une semaine, qui a affirmé le besoin d'être attentif au soutien et à l'exigence de François Bayrou, reconnaissant même une certaine arrogance de la part du parti majoritaire. Et puis, deuxième épisode de dos rond, Édouard Philippe en personne, mercredi dernier, devant les députés du parti centriste. Le Modem est dans le jeu, leur a lancé le Premier ministre en leur assurant une plus grande implication dans la préparation du travail parlementaire. En clair, un message reçu et il était temps qu'il le soit. Les sorties médiatiques du Modem se faisaient de plus en plus gênantes. La majorité a qualifié de trompe-l'œil. Le Modem jugé par ses propres rangs trop gentil avec Emmanuel Macron jusqu'à François Bayrou qui s'est fait la vigie de la bonne tenue des promesses présidentielles. Sans oublier la candidature surprise de Marc Fesneau, le président du groupe, face à Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale, candidature qui a en plus recueilli 86 voix, dont des LREM. Bref, pas de quoi rendre François Bayrou déloyal, mais assez pour le faire revenir sur le devant de la scène macronienne.
Adrien Toffoli, envoyé spécial de France Culture à Guidel. C'était une étrange idée développée dans les années 80, immerger des pneus pour fabriquer des récifs artificiels. Aujourd'hui, entre Antibes et Cannes, 25 000 pneus usagés sont retirés de l'eau. Une première opération de ce type en France. C'est un samedi ensoleillé presque partout aujourd'hui après la dissipation de voiles de brume sur le Val-de-Marne et l'Île-de-France. Seules les côtes de la Manche et le Nord seront encore sous la pluie. Les températures sont plus fraîches. Comptez ce matin 14 degrés à Amiens, 16 à Orléans, 24 degrés à Toulon, cet après-midi 19 degrés à Paris, jusqu'à 28 degrés à Nice.